France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Quiconque a déjà vécu avec un animal s'est posé la question. Mais à quoi pense-t-il ? Comprend-il que je suis triste quand il pose sa tête sur mes genoux ? Quelles sont ses rêveries quand il laisse voguer son regard autour de lui ? Quels sont ses rêves quand il dort et qu'il semble agité ? Voilà. Quiconque a déjà vécu avec un chat, un chien ou un lapin s'est posé la question. Et si mon animal n'avait pas seulement une conscience, mais un inconscient ?
Je pense que tout ça doit remonter au fait que j'ai eu une enfance très angoissée. Vous savez, ma mère n'avait jamais de temps à me consacrer. Vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans une famille de 5 millions, ben, on s'intéresse pratiquement pas à vous. Hein, tout le monde s'en fout. Puis j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon qui n'a cessé d'empoisonner ma vie. Mon père était, au fond, c'était un faux bourdon, comme je vous l'ai dit. En fait, il s'est envolé quand j'étais encore qu'une larve.
En plus, c'est mon travail. Ne me lancez pas là-dessus, parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, j'étais pas fait pour être ouvrier. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Je me sens physiquement inadéquat. Pas une fois dans ma vie, j'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Et tout bien considéré, passer son temps à manipuler des saletés, c'est pas ce que j'appelle avoir des perspectives d'avenir.
C'est tout cet enthousiasme général pour le méga-organisme que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie, mais j'y arrive pas. Je veux dire, ça veut dire quoi? Que je ne suis censé penser qu'au bien-être de la colonie, hein? Et qui pense à mon bien-être à moi? Qui pense à moi? Alors je suis bien obligé de me persuader qu'il y a un monde quelque part qui est mieux qu'ici. Sinon, j'ai plus qu'à me coucher en position larvaire et à me mettre à pleurer. Hein? Le système tout entier me donne l'impression d'être insignifiant.
C'est très bien. Vous venez de faire un grand pas en avant.
Ah oui ?
Oui, Zed. Vous êtes insignifiant.
Ah bon ?
Bonjour Florence Burga.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes philosophe, chercheur à l'ENS, vous travaillez sur la condition animale, notamment sous l'angle phénoménologique, et vient de paraître de vous l'inconscient des animaux aux éditions du Seuil. Quand on imagine ce qui se passe dans la tête d'un animal, on ne peut pas s'empêcher de le voir tel qu'on l'a entendu dans cet extrait du dessin animé Fourmise, à savoir un animal qui va s'allonger chez le psy et qui va faire comme nous. Est-ce que c'est une bonne manière d'appréhender l'inconscient chez les animaux ?
Alors, je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans la question, même si, voilà, c'est
pas un petit peu caricatural.
Bien sûr, c'est un peu caricatural. Et ici, en passant par le biais d'une fourmi, ce ne sont pas les animaux dont nous allons parler ce matin. On peut dire que l'insecte est d'une certaine manière l'être le plus mystérieux, parce que nous n'avons aucun accès à sa psyché. A-t-il même une psyché? Enfin, il faudrait, là, je crois, une définition tout à fait autre, et que nous allons nous intéresser aux animaux que Freud appelait les animaux supérieurs, qui ont une vie de relation et qui, lorsque nous les voyons se comporter avec nous, avec d'autres, comme vous l'avez évoqué en introduction, évoquent évidemment quelque chose qui nous est extrêmement familier. C'est-à-dire nous-mêmes.
Quand vous dites animaux supérieurs, qu'est-ce qu'il faut entendre ? C'est ce qu'on entend communément par animal de compagnie, qui n'est pas vraiment une très bonne expression, parce que ça sous-entend surtout qu'ils sont comme un petit peu, non pas des compagnons, mais vraiment presque des assistants.
Oui, ça serait comme une fonction.
Voilà, une fonction un peu subalterne. C'est quoi, les chats, les chiens?
Alors, ce que nous appelons animaux supérieurs, enfin, on peut bien sûr contester ce vocable, en tout cas, je le reprends ici, puisque c'est le terme de Freud dont nous allons, je pense, parler. Il ne s'agit pas simplement des mammifères familiers qu'on appelle effectivement, malheureusement, animaux de compagnie. Il faudrait étendre bien évidemment cette appellation à tous les mammifères, car ce n'est pas parce que certains d'entre eux vivent à nos côtés qu'ils ont une psyché
supérieure,
et donc ce que ça veut dire ici supérieure, c'est-à-dire composé d'un appareil psychique, d'instances qui veulent des choses différentes, nous y reviendrons, et il faut donc l'étendre à tous les mammifères sauvages. Les mammifères si nombreux qui sont enfermés dans les élevages industriels et qui sont donc destinés à la boucherie, les mammifères marins. Il semble qu'il faille aussi inclure dans cette catégorie d'animaux supérieurs les oiseaux. Lorenz, par son étude très pointue des oiseaux, nous convainc de les inscrire dans cette catégorie. Et puis les psychopathologies dont les oiseaux font l'objet. On ne s'est guère interrogé sur les poissons. mais on commence à s'interroger sur les pathologiques, il faut bien dire, comportementales, donc psychiques, d'animaux qui sont par exemple isolés dans des aquariums. Donc là, il y a tout un champ de réflexion, et il est difficile évidemment de poser une frontière dans la mesure où la vie psychique ne coïncide pas avec des facteurs positifs du type activité neurale.
Alors ça, c'est très important, Florence Burga, parce que avant de parler de l'inconscient des animaux, il faut déjà se poser la question de la conscience des animaux. Conscience qui n'a pas forcément été admise par tout un ensemble de spécialistes, par le champ scientifique, où pour le coup, la psychologie animale a souvent été réduite justement à des activités neuronales, donc à des processus cérébraux, même parfois en fait à des systèmes de stimulus-réponse.
Alors, évidemment, et peut-être ne faut-il pas parler au passé, voilà, car il y a encore quand même beaucoup.
C'est ça qui prédomine
Dans certains domaines, ça prédomine, notamment dans le domaine des recherches en psychopharmacologie qui sont effectuées sur les animaux. Eh bien, les chercheurs considèrent que ces animaux simulent, par les symptômes qu'ils développent, quelque chose qui n'existerait vraiment et ne se développerait vraiment que chez l'humain. Donc, on a des visions hyper réductionnistes qui sont encore à l'œuvre dans la recherche ou dans certains tenants de l'éthologie ou de la psychologie animale. Mais enfin, il est important de replacer cette réflexion sur la psyché animale, effectivement, dans cette histoire que vous évoquez, de la psychologie animale où a régné, et règne peut-être encore un peu, même si le vocable ne se rencontre plus, le behaviorisme, c'est-à-dire l'idée qu'on peut expliquer aussi bien l'humain d'ailleurs que les animaux en faisant l'économie de la conscience. Alors soit dans une perspective radicale qui va nier l'existence de la conscience, soit dans une perspective moins radicale, plus méthodologique, qui consiste à dire que puisque nous ne pouvons pas avoir de preuves objectives, de mesures de cette activité de conscience, eh bien, elle ne doit pas entrer dans le champ de la réflexion. Et donc, c'était la porte ouverte, effectivement, à tous ces développements sur l'instinct, le réflexe, qui ont été largement critiqués par les phénoménologues. Il est frappant de voir que Merleau-Ponty, Erwin Strauss et d'autres, dans leurs réflexions sur les fondements de la psychologie ou du comportement, chez Merleau-Ponty, consacre un chapitre liminaire à une critique de la réflexologie comme d'un comportement qui n'aurait aucune signification. Donc il s'agit en fait de rapatrier dans une réflexion sur le sens des comportements ces grands pans de comportements qu'on a appelés instincts et réflexes pour montrer qu'ils ont une complexité qui n'a pas été vue.
Mais ça, c'est une question passionnante. Il y a la question qui se pose à partir de la condition animale, mais en fait, qui s'étend de manière générale à tout être humain et non humain, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience ? On reviendra à la question de l'inconscient, mais qu'est-ce que c'est que la conscience ? Et comment distinguer des états de conscience de comportements, puisque d'une certaine manière, les comportements sont les expressions les plus manifestes de ces états de conscience ?
Oui, et c'est bien là-dessus que la phénoménologie a insisté, ou Searle, Merleau-Ponty, pour montrer que la vie psychique affleure à même les comportements et que ce sont les comportements qui sont l'indice d'une vie psychique. Mmh. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que la question des insectes est tellement complexe, parce que comment savoir exactement si l'insecte est uniquement mu par des stimuli extérieurs auxquels il répondrait mécaniquement, un peu comme les plantes, même si tout ça est très complexe, mais voilà, les plantes n'ont pas une intériorité qui les pousse à décider d'aller ici ou là, elles sont mues par des stimuli extérieurs. Bon, chez l'insecte, les choses semblent tout de même assez différentes, puisqu'il y a des comportements individuels. En tout cas, les entomologistes commencent à s'y intéresser. Moi, c'est un domaine sur lequel je ne me suis pas penchée. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de penser à un appareil psychique chez les insectes, que les choses soient bien claires. Mais voilà, là, on bute sur qu'est-ce que nous dit ce comportement. En tout cas, dès lors qu'il y a une vie de relation, une vie affective, et c'est, je crois, là-dessus qu'il faut beaucoup insister, cette dimension, en fait, d'aimer et d'être aimé, dans laquelle Ferenczi voyait la possibilité pour un être d'être unifié. C'est cela qui nous met sur la voie d'une conscience au sens où nous la pratiquons nous-mêmes. Donc non pas une conscience qui nous relierait aux éléments cosmiques qui sont peut-être beaucoup plus présents chez les insectes, mais cette conscience de l'expérience vécue en première personne. C'est cette conscience-là que nous voyons de manière assez évidente chez les animaux qui ont une vie de relation.
Donc les deux choses vraiment à dépasser quand on veut aborder la question de la conscience et de l'inconscient chez les animaux, c'est donc le behaviorisme, donc l'idée que les animaux n'auraient que des comportements, mais aussi, et vous l'évoquez dans votre livre, cette idée que l'animal serait toujours renvoyé à l'animalité. C'est-à-dire à une part de, quand on dit la part animale en moi, homme, femme, c'est toujours renvoyé à une part bestiale, sexuelle, faite d'instinct, de pulsion. Et ça, c'est l'autre chose qu'il faut dépasser.
Oui, je pense qu'il faut absolument dépasser ces deux notions de part animale de l'homme et d'animalité qui sont, pour plusieurs raisons, d'une part, elles sont toujours négatives. C'est pour signaler en l'homme ses penchants les plus vils. Et notamment, il est très curieux de voir qu'il s'agit de la sexualité, puisque comme Freud le souligne, l'être humain est le seul à être soumis aux pulsions sexuelles de manière continue, tandis que les animaux, en fait, ont une vie sexuelle qu'à certaines époques. Donc, on voit à quel point c'est idéologique, cette notion de part animale de l'homme. Et puis aussi, ça a l'air de faire des animaux une espèce de couche primitive de l'humain, à partir de laquelle, dont lui-même s'émanciperait vers autre chose. Et je propose le concept, c'est peut-être un petit peu lourd, mais de archépsychobiologie, en conclusion, pour parler de cette couche commune à tous les organismes psychobiologiques, qui est cette articulation archaïque du psychique et du biologique, qui est commune aux animaux qui ont une vie psychique et à l'humain, et que nous ne devrions pas appeler animalité.
Donc, on doit aussi oublier, parce que c'est quand même un très grand champ dans la philosophie, mais en fait qui a largement débordé la philosophie, la conception de l'animal-machine qu'a soutenu Descartes et qui en fait semble assez proche d'ailleurs du behaviorisme.
Alors, très proche, Erwin Strauss, par exemple, dans Du sens des sens, montre de manière très précise que le behaviorisme est un héritage direct du cartésianisme. Donc voilà, le cartésianisme est puissant parce que il a des avatars jusqu'à aujourd'hui, en fait, encore. Où donc cet animal auquel on fait subir les pires mauvais traitements pour le rendre déprimé, phobique, psychotique, et dont on dit qu'il ne produit que des symptômes qui ne sont pas vécus. On voit très bien que là, c'est un prolongement du cartésianisme.
Et est-ce que ça se prolonge aussi d'une certaine manière dans certains ricanements, moqueries, quand on dit mon chat, je sens qu'il est déprimé en ce moment, il faudrait peut-être qu'il voit quelqu'un. On a toujours l'impression qu'on tombe dans de l'anthropomorphisme ou que on a l'impression aussi qu'on est un peu moqué, qu'on est un peu ridicule, parce qu'en fait c'est comme si on voyait toujours notre chat comme nous, comme si on projetait sur lui ce qu'on était et qu'on ne prenait pas au sérieux le fait qu'il ait une spécificité.
Mais je pense que c'est effectivement tout à fait un avatar, là encore, du cartésianisme, même si on connaît rien à Descartes. C'est ce modèle qu'on nous a enseigné. Et donc, c'est vraiment l'idée que comment le chat pourrait-il être déprimé? Comme le dit Descartes, seule l'âme sent. Et l'âme, il l'entend au sens
d'âme humaine.
De l'esprit, et de l'esprit, pas du tout en un sens religieux. Et si l'animal est dépourvu de toute vie psychique, comment pourrait-il être déprimé? Pourtant, ce qui est bien établi dans les littératures au sens le plus large du terme, c'est cette vie affective des animaux. C'est le fait qu'en effet, lorsqu'ils sont confrontés à la perte d'un être d'attachement, comme on dit, eh bien, ils développent des deuils. En devenant boulimiques, en devenant dépressifs, enfin, ils ont des symptômes qui sont les mêmes que ceux que nous pouvons, les uns et les autres, développer dans les situations affectives de grande privation.
Donc, c'est pas un abus ou de l'anthropomorphisme que de parler de dépression, de boulimie, c'est-à-dire de pathologie développée d'abord pour les humains, pour les animaux. Est-ce qu'il faut pas envisager peut-être un champ de psychopathologie proprement animale où effectivement il n'y aurait pas de risque de plaquer des catégories humaines sur des êtres vivants non humains.
Alors, ce qu'on est en train de dire, si on disait ça, on serait en train de dire que seul l'être humain a une vie psychique qui peut se détraquer, qui peut sombrer, qui peut s'abîmer. Alors, soit on accorde à ces animaux une vie psychique et à ce moment-là, eh bien, ils sont eux aussi pris dans le gouffre, dans les abysses de la vie psychique et dans cette vulnérabilité fondamentale, en fait, qu'apporte la vie psychique à un organisme vivant. Et si on dénie tout ça, à ce moment-là, comment expliquer que l'animal qui a perdu un être cher se replie sur lui-même, ne boit plus, ne mange plus? Alors, qu'est-ce qu'on gagnerait à donner un autre mot que dépressif? Quand on a affaire finalement à des cas similaires, ça n'est pas faire de l'anthropomorphisme. Si on faisait de l'anthropomorphisme, ça voudrait dire qu'on étend des catégories proprement humaines aux animaux. Mais là, il ne s'agit pas d'une catégorie proprement humaine. À partir du moment où il y a cette vie affective, et donc cette vie très vulnérable, et qui se constate chez d'autres êtres que l'être humain, il n'y a pas de raison de ne pas employer les mêmes termes. Ensuite, on peut dire évidemment qu'on n'est pas dans la tête d'autrui. Sait-on d'ailleurs ce que vit le dépressif que j'ai en face de moi? Je ne le sais pas exactement. Bien sûr, il peut dire qu'il est déprimé, mais au fond, une personne qui est véritablement au plus mal, précisément, ne peut pas verbaliser son mal. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans la tête de l'animal, nous ne pouvons pas sentir exactement quelle est sa dépression, encore que, lorsque nous sommes entourés d'individus, je dirais individus au sens large, dont nous repérons les signes d'un très grand mal-être, eh bien, nous savons de quoi il s'agit.
Oh, Caruso. Oh, Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso, vous le savez, vous ?
Ah, parce qu'il chantait à une époque. Et avant d'être paralysé, là, il avait une voix de ténor. Alors il l'a appelé Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso, au patron.
Ce chien-là, il chantait?
Oui. Enfin, il faisait... Mais il chantait aucun air connu, quoi. Non, non, il chantait ce qui lui venait. Mais à partir du moment où il a eu son arthrose, il n'y avait plus rien. Ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça, et il s'est arrêté net. Enfin, c'est pas grave, un chien, c'est pas fait pour chanter, de toute façon.
Oui, mais enfin, c'est fait pour courir quand même, à plat ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée. Ça doit être insupportable.
C'est toute la journée, surtout, hein, parce qu'à plat ventre, sans rien faire, c'est plutôt bien.
Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé?
Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir, hein. Vous savez, au bout de deux ou trois...
À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça?
C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant, quoi.
Lin Yun, le premier chouchou de mon père, offert par Dorothy, s'était perdu un jour à la gare de Salzbourg. On l'avait retrouvée morte sur les rails. Sa sœur vient la remplacer. Papa lui donne le nom de Yofi, beauté en hébreu. Il aime cette race de chien, parce qu'il ressemble à des lions miniatures. Pendant des années, Yofi prend part aux analyses avec lui. Elle accueille le patient, se couche, et souvent prévient de la fin de la séance en se levant d'un bond et en se dirigeant vers la porte. Papa dit souvent à son entourage que les chiens ont l'air d'être tristes, mais que c'est une apparence trompeuse. Il y a une joie profonde en eux.
Florence Burga, dans votre livre « L'inconscient des animaux », vous partez d'une phrase de Freud que vous étendez. On va en reparler, vous allez pouvoir la citer. Mais juste avant, j'aimerais qu'on réagisse sur ce texte qu'on a entendu, interprété par Isabelle Huppert, qui prend donc la voix d'Anna Freud, qui parle des chouchous adorés de son père Freud. C'est dans le documentaire de David Toboul, « Sigmund Freud, un juif sans Dieu ». Alors c'est vrai que moi, j'avais jamais croisé la trace des chiens de Freud dans ses textes, pas que j'ai lu toute son œuvre, mais c'est quand même assez frappant, c'est-à-dire la présence des chiens pendant les séances de psychanalyse, le fait que le chien sente que c'est déjà la fin de la séance, le fait qu'il ait un air triste mais que Freud interprète tout autrement, on sentait bien que déjà il y avait une attention aux états psychiques des animaux.
Oui, dans son œuvre, effectivement, dans son œuvre théorique, il y a quelques remarques, par exemple, sur le fait que les animaux ne sont pas sur Terre pour servir l'homme. Voilà, il y a un passage dans Malaise, dans la culture. Mais il est étonnant de voir surgir à la fin, enfin dans son dernier texte, considéré comme son testament, l'abrégé de psychanalyse qu'il écrit donc en 1938, où il affirme, et on citera la phrase, la présence d'un appareil psychique chez les animaux supérieurs. Il faut regarder un peu dans sa correspondance, je suis en train de la lire de bout en bout, mais c'est un travail de très longue haleine, en particulier donc dans sa correspondance avec Marie Bonaparte, puisqu'il traduit en allemand le petit texte qu'elle a écrit sur son chien, Topsy. Donc ils ont une correspondance très importante, Marie Bonaparte et lui, et ils parlent volontiers tous les deux de leur chien. Mais dans d'autres correspondances aussi, Freud dit, par exemple, lorsqu'ils partent en vacances l'été, tout le monde se sent bien dans la famille, y compris Joffy. Donc ce sont des personnages très, très présents dans sa vie. Et dans les films qu'Anna Freud a réalisés, dont on voit quelques extraits dans ce magnifique documentaire, eh bien, on voit Freud avec ses chiens et on voit, enfin, avec ses chiens successifs, et on voit effectivement combien ils font partie intégrante de la famille.
Alors, cette phrase sur laquelle vous vous appuyez, Florence Burgas, c'est celle-ci. On admettra ce schéma général d'un appareil psychique pour les animaux supérieurs animiquement semblable à l'homme. Il faut supposer un surmoi dans tous les cas où il y a eu, comme chez l'homme, une période plus ou moins longue de dépendance dans l'enfance. On ne peut éviter de supposer une séparation du moi et du ça, la psychologie animale ne s'est pas encore attaquée à l'intéressante tâche qui s'offre ici. Alors là, il y a tout un ensemble de termes à analyser, Florence Burga. Déjà quand même, cette idée qu'il soit question d'un appareil psychique pour les animaux supérieurs. Alors, animiquement semblable à l'homme, ça veut dire quoi?
Alors, j'ai, après beaucoup d'hésitations, choisi de prendre la traduction ancienne d'Anne Berman, qui garde le mot psychique. Freud utilise volontiers le terme « zèle d'âme », là aussi à ne pas prendre évidemment en un sens chrétien, mais plutôt le sens dans la philosophie. De la nature allemande, le romantisme. Donc, j'ai d'accord avec mon collègue germaniste Christian Sommer, parce que je l'ai consulté, on a regardé le texte allemand, d'abord pour voir s'il n'y avait pas un excès dans la traduction, par exemple dans le fait que Freud affirme, donc voilà, la traduction est parfaitement fidèle, et animiquement, c'est tout simplement psychiquement.
D'accord. Alors, il y a l'idée, là, il faut revenir sur appareil psychique. On suppose que l'appareil psychique, pour Freud, puisque le décline après, suppose un surmoi, un moi et un ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter cet appareil psychique et comment il se retrouverait aussi chez les animaux?
Alors, l'enquête qu'il faut faire, c'est se demander comment Freud en est arrivé à écrire ça. Et ça, je n'ai pas trouvé dans son œuvre de texte où il est consacré des pages explicites pour dire « voilà comment j'en arrive à dire ça ». Voilà pourquoi je pense qu'on peut continuer l'enquête dans la correspondance. Mais ce qu'on peut faire, et ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder la signification de ces énormes, immenses concepts de la deuxième topique. Donc, puisqu'il y a la première topique, la conscience, le préconscient et l'inconscient. Et dans la deuxième topique, donc Freud choisit d'appeler la conscience le « ça ». Et il parle d'un surmoi et d'un moi. Donc il modifie un petit peu ses concepts. Mais pour dire les choses un peu rapidement, donc le « ça », c'est ce lieu des pulsions, ce lieu de l'inconscient. Le surmoi, c'est l'instance inhibitrice. Donc Freud...
Morale, qui nous dit...
Morale, ou en tout cas... Alors morale chez l'humain... inhibitrice, qu'on peut peut-être appeler morale aussi chez les animaux, au sens où ils savent que certaines choses sont interdites. Donc Freud rattache ça aux animaux qui ont vécu dans leur enfance une période de dépendance, soit avec leurs parents, soit avec des substituts. Substituts, ça peut être des humains qui élèvent des animaux qui n'ont pas de parents, ou par exemple, on pense évidemment à Lorenz avec son noix.
C'est donc le moment... Vous reviendrez sur Lorenz, parce que je pense que c'est pas un exemple qui est forcément connu des auditeurs et des auditrices.
Oui.
Conrad Lorenz, donc il parlait de son noix, mais on pourrait y revenir, oui.
Et donc le fait que les parents inhibent certains comportements chez les petits, qui apprennent au fond à contrôler leur agressivité, sans quoi évidemment ce serait la guerre de tous contre tous. On peut dire il y a une instance de surmoi, une instance morale inhibitrice, appelons-la pour le moment comme on veut, et puis ce moi qui est au fond le pôle unificateur des expériences, c'est la vie en première personne, le fait évidemment que l'animal sait d'un savoir immédiat que... Eh bien, il est lui-même au fil de la journée que quand il se réveille le matin, son identité n'a pas disparu et qu'il y a évidemment toute la mémoire de sa vie. Donc c'est le pôle unificateur.
Le fait par exemple qu'il reconnaisse son nom quand on l'appelle.
Bien sûr, qu'il reconnaisse les
lieux où il habite,
les lieux, enfin
où il peut aller manger.
Voilà, bien évidemment. Donc c'est cette et puis qu'il décide de se comporter de telle ou telle manière. On peut bien sûr parler, comme on le voit, d'une personnalité particulière à chaque animal. Un chat n'équivaut pas à un autre chat dans son appréciation des choses. Et ce moi, dit Freud, c'est cet être de frontière qui est menacé de toutes parts par le monde extérieur, qui est évidemment une source constante de danger, par les pulsions du ça et par les interdits qui émanent du surmoi.
Mmh. Alors, le ça, vous l'avez dit, Florence Burgas, c'est l'inconscient.
L'inconscient.
On a parlé de la conscience chez les animaux, thèse qu'on peut affirmer. Dès lors qu'on affirme qu'il y a une conscience chez l'animal, on doit de fait affirmer qu'il y a un inconscient chez les animaux. Ça va forcément ensemble, si on s'en tient à la thèse de Freud, c'est le cas?
Alors, pas forcément, il faut préciser les choses. Effectivement, alors Freud dit que ni la psychologie ni la philosophie ne peuvent permettre de découvrir ce qu'est l'inconscient au sens où lui-même le découvre. Pourquoi ? Parce que dans ces deux traditions, l'activité psychique et l'activité consciente se recoupent. Or, si elles se recoupent, cela signifierait que l'inconscient n'est pas psychique, ce qui n'est évidemment pas le point de vue de Freud. Alors, si on pose une conscience, on va poser qu'il y a des pensées inconscientes en un sens très précis. Ce sont les pensées qui tombent dans la mémoire, dans l'oubli, qui sont latéralisées et qui peuvent être réactualisées. Donc on peut, je crois, sans difficulté, accorder ce type d'inconscience, peut-être on l'appellerait plutôt l'inconscience, comme la psychologie a pu le faire, ou comme Husserl le montre dans ses analyses très précises de l'activité de conscience, qu'il y a des pensées effectivement latéralisées. Mais ce que Freud appelle l'inconscient, puis plus tard le ça, ce sont des pensées qui sont refoulées et qui peuvent ne jamais parvenir à la conscience, ou qui peuvent revenir, refaire surface sous forme de symptômes, de psychopathologie, par exemple à la faveur d'une situation qui va rappeler un événement traumatisant qui aura été enfoui.
C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé.
C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé.
Et alors, comment on peut repérer ça chez les animaux? Parce que l'inconscient étant inaccessible, les animaux n'ayant pas la parole, quoi qu'on dise et quoi que fassent les dessins animés et la fiction pour nous, comment on peut repérer ça chez les animaux, Florence Burgas?
Alors, finalement, Freud, je pense, a posé cette affirmation bien avant que certaines disciplines puissent venir au secours de cette phrase, car ce sont les psychopathologies qui sont le royaume de l'inconscient. Comment est-ce que Freud découvre l'inconscient? Il n'en a pas un accès direct.
Personne d'ailleurs, en fait.
Personne n'a un accès direct. Donc bien sûr, l'expérience de l'hypnose, lorsqu'il voit les patients hypnotisés chez Charcot, il dit c'est une expérience inoubliable parce que tout à coup l'inconscient fait corps. Sous hypnose, le sujet verbalise des choses qu'il a radicalement oubliées. Et c'est aussi le rêve, et là vous me direz, nous n'avons pas accès évidemment au récit du rêve des animaux, mais par des recherches d'ailleurs absolument abominables, ont été mises en évidence une activité onirique, c'est-à-dire celle du sommeil paradoxal, pendant laquelle nous savons que l'humain rêve, et donc dans la mesure où ce sommeil paradoxal est mis en évidence, chez un très grand nombre d'espèces, et qu'on les voit pendant le sommeil paradoxal manifester, s'animer, pousser des petits cris, etc. On en déduit qu'évidemment, les animaux rêvent, sans quoi il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait cette mobilité et ces expressions. Donc on peut dire que le rêve qu'on voit chez nos animaux qui dorment, et peut-être il n'est pas nécessaire de passer par ces expérimentations cérébrales pour le comprendre, et le fait que précisément il y ait chez les animaux, d'une observation que nous pouvons faire, des états qui montrent que la vie psychique produit des traumas, des peurs, des états dépressifs. Donc ce sont par les mêmes voies en réalité. Mm. Parce que qu'est-ce que va faire le patient ?
La parole en moins.
Oui, qu'est-ce que va faire le patient évidemment en analyse, par l'association libre ? Il va à son insu faire venir à la surface des choses que le psychanalyste va entendre d'une autre façon que lui. Donc on peut relativiser un petit peu le fait que les animaux, et ça fait écho au début de notre émission, que les animaux seraient des patients absolument singuliers. Songeons tout de même au fait que Mélanie Klein recevait des enfants qui ne parlaient pas encore.
Psychanalyste
pour enfants dans les années 20. Mm-hmm. Et elle disait qu'au fond, eh bien, elle avait en face d'elle le trouble psychique à l'état pur. Tandis que l'adulte va minimiser, enrober, refouler, cacher. Enfin,
avoir des conduites d'évitement finalement.
Avoir des conduites d'évitement vis-à-vis de son propre malaise. Et donc, évidemment, elle met au point des formes d'expression de ce malaise propres aux enfants. Et pour les animaux, naturellement, on a aussi cette difficulté. Il faut recourir, comme pour les enfants, à des tiers qui vont expliquer, les parents ou les propriétaires des animaux.
D'où le risque, en fait, que les proches, en fait, projettent quelque chose aussi sur les animaux, de la même manière que des parents le font avec des enfants en disant « Ah, mais il est comme ça, il agit comme ça, c'est son truc, je le comprends. » Et d'où aussi le problème, en fait, qui guette du comportementalisme, c'est-à-dire de se dire une manière de se conduire dans la journée, une manière de se comporter, un caractère, ne dit pas forcément tout du psychisme.
Oui, alors il y a d'abord des comportements curieux qui ne sont pas forcément pathologiques.
Oui.
Le fait de s'écarter d'une norme ne signifie pas la pathologie. À partir de quand un comportement est-il pathologique ? On peut dire que c'est lorsque l'individu est entravé dans sa propre existence. L'originalité, la marginalité ne sont pas forcément des troubles psychopathologiques. Donc, en effet, cette question de l'interprétation des comportements est difficile. Et je crois que c'est à partir du moment où l'individu, en effet, ne peut plus arriver à vivre. Et vous soulignez aussi, avec ces projections, le fait que les animaux qui vivent dans des familles humaines sont comme des éponges, on l'entend dire, et sont probablement affectés aussi par les troubles de vie que peuvent rencontrer les humains chez qui ils vivent. Des états de grande colère, des hurlements, des grandes dépressions ne sont pas, bien évidemment, sans affecter les individus qui vivent dans cet environnement et bien sûr, dont les animaux.
Les lapins et les oiseaux, moi j'aime les animaux. Les petits chats qui font la nuit, leurs amours de folie. C'est au printemps qu'ils sont filous, quand ils ont rendez-vous. Sur les chemins de la forêt, où ils vont pour s'aimer. Eux, sous prétexte que c'est le printemps, eux ont le droit de s'aimer librement. Les petits lapins et les oiseaux sont libres comme l'eau. Trois petits tours, et puis ça y est, on change de forêt. Mes petits copains sont des migots qui ne disent pas un mot. Je suis bien sûr qu'ils m'aiment bien, mais ça ne va pas loin. Le plus malin c'est Jean-François, tous les deux on s'en va. Sur les chemins de la forêt, bras dessous, oui mais. Lui, sous prétexte que c'est le printemps, lui va va cueillir des fleurs bleues dans les champs. J'aime bien les fleurs, c'est entendu, mais quand le soir venu, on s'en revient main dans la main. Moi je pense au petit lapin, moi je pense au petit lapin, moi je pense au petit lapin.
L'oreille musicienne du chat fait la différence entre la familiarité et la tendresse. Ce n'est que par jeu et fantaisie que ma chatte dernière se plaisait à ce que je lui dise rudement « Chatte, ici tout de suite, chatte, allez vous coucher !» qui accompagnait les rites du soir. Gaiement, elle prenait le galop, courait à sa corbeille et obéissait pour imiter le chien. Mais au vrai, le chat préfère dans la voix humaine les intonations les plus voisines du chant. L'année où, dédaigneusement et d'une brève audience accordée au chat du charbonnier du coin, au bistrot blanc et noir, au petit épicier jaune, elle eut cette jolie fille bâtarde, rayée, riante, un peu sotte, et que nous appelions gentille. La chatte ne tarda pas à la chasser de sa présence et même de son affection, par jalousie, à ce point que le nom de gentille, prononcé par l'ennemi, arrachait à la chatte une petite plainte faible. Aussi donnâmes-nous gentille en cadeau à monsieur le curé des Ménules. Et le cœur douloureux de la chatte s'apaisa.
C'était la voix de Colette, voix reconnaissable entre toutes dans une archive de 1948 où elle parle de sa chatte, chatte jalouse de sa propre progéniture, chatte qui préfère le chant à la parole humaine, chatte qui essaye d'imiter le chien et qui obéit quand même aux ordres. Cette manière de parler des animaux, est-ce que c'est le type d'attention qu'on doit porter en fait aux êtres qui nous entourent pour détecter non pas forcément le surgissement d'une psychopathologie, mais tout simplement constater la conscience et la vie inconsciente des animaux, Florence Burga.
Oui, bien sûr, quelqu'un comme Colette qui a une attention particulière aux animaux, comme on le voit dans ces textes absolument sublimes, nous permet de prendre la mesure de la complexité et de la finesse de cette vie que nous avons finalement du mal à admettre, probablement parce que nous sommes des êtres parlants et que ce logocentrisme nous aveugle un peu. Nous avons le sentiment que les êtres qui ne manient pas le langage sont simples, que la complexité psychique nous vient de cet usage du verbe. Et nous découvrons, lorsque nous sommes attentifs à ces autres formes de vie, qu'en fait elles sont très subtiles et que les animaux continuent à être attachés, pour comprendre et probablement communiquer entre eux, à des signes auxquels nous ne faisons plus attention puisque nous nous parlons. Donc nous faisons beaucoup moins attention aux mimiques, aux regards, à tous les signes que probablement à l'aube de l'humanité, les premières espèces humaines avant de parler ont dû utilisés, ont dû fonctionner de la même manière que les animaux communiquaient eux-mêmes avant le langage. Et c'est ça qu'il faudrait continuer à avoir en tête.
Ce qui est paradoxal, ça veut dire que finalement, la parole qu'on voit comme le moyen par excellence pour les humains de s'exprimer sur leur état d'âme, la littérature n'est faite que de ça, de sublimation par la création, les discussions entre amis sont énormément faites de ça, le soin passe par la parole, par l'écoute, la radio passe par la parole, les cours, tout passe par la parole et paradoxalement, les animaux nous obligent à nous en départir et ce n'est pas qu'ils manquent de quelque chose, mais au contraire, ils développent une communication, on pourrait dire, à travers des voix, des moyens auxquels on ne prête plus marre. Est-ce qu'on peut véritablement parler justement de communication ou alors peut-être de langage même, dépourvu de parole ?
Alors, premièrement, il faut, je crois, effectivement beaucoup insister sur le fait que les animaux sont pas des humains moins quelque chose. Mmh. Un animal, c'est pas un humain moins la parole, moins ceci, moins cela. Et je veux pas non plus dévaloriser la parole. L'écriture, c'est mon outil. Voilà. Et la littérature, bien évidemment, il s'agit pas là de dévaloriser la parole et tout ce qu'elle produit. Il s'agit de se dire, ceux qui n'ont pas la parole, comment font-ils ? Ils ne sont pas dans une forme d'abrutissement du fait qu'ils n'ont pas la parole. Donc comment communiquent-ils entre eux ? Moi, je ne le sais pas. On peut attirer l'attention, je cite un article qui m'a été communiqué sur un outil probablement voué à être un outil révolutionnaire, qui est la communication animale, qui est un outil utilisé dans de grandes parties du monde, et notamment en France, qui est donc la technique, c'est pas du tout du paranormal ou de la magie, la technique que certaines personnes ont développée pour parvenir à communiquer avec des animaux. Alors, cela peut sembler curieux, incongru, de le dire comme ça, incongru, bizarre, de la magie, de la parapsychologie, ça n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Quand Freud s'intéresse, quand on l'interroge sur la télépathie, quand Ferenczi s'intéresse à la voyance, on peut se dire, ben, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? C'est totalement grotesque. Bon, il faut se dire que lorsque l'on s'intéresse à la conscience, à l'inconscient, à la vie psychique, on s'intéresse à des couches de la vie psychique qui sont cachées, mises à l'arrière-plan, dont nous n'avons pas conscience, mais qui sont agissantes. Et donc, à partir de ce moment-là, s'intéresser, au fond, à ce que peut une conscience, ce que peut un inconscient. Souvent, on dit que les inconscients communiquent très bien. On peut découvrir que telle personne avait telle habitude, on ne le savait pas, mais en fait, une fois qu'on l'a appris, on se rend compte que notre inconscient le savait parfaitement. Bon, chacun peut avoir là des expériences. Donc cet outil de la communication animale, et je me permets de citer le nom d'Hélène Dalasta qui m'a communiqué cet article et qui elle-même la pratique avec beaucoup de rigueur, est quelque chose qui va probablement ouvrir des horizons et qui montre que certains états de conscience permettent d'accéder au fond à cette psyché dont Freud monte avec cette question de la psychogénèse, que nous avons en nous la mémoire effacée des expériences très anciennes de l'évolution.
Mais cet outil de communication, comment on l'utilise ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est certaines personnes qui ont exercé leur œil aux attitudes des animaux grâce à l'observation, en fait, grâce à la cohabitation ? Est-ce que c'est décrit comme une sorte de don ? Et là, ça paraîtrait presque, effectivement, ça irait dans le sens de complètement saugrenu. Qu'est-ce que c'est ce type de...
Alors non, ça n'est pas un don. C'est vraiment... Alors moi, je vous en parle de loin, hein, parce que je n'en ai pas la pratique. Mais bien sûr, cela m'intéresse. Non, c'est plutôt un état modifié de conscience qui permet d'accéder en fait à la conscience d'un animal et de dialoguer de manière évidemment silencieuse avec lui.
Et n'est-ce pas aussi l'impression qu'on a tous quand on vit avec un animal, c'est-à-dire de pouvoir dialoguer avec lui ? La manière qu'on entend Colette... D'ailleurs, très bizarrement, à la fois de parler de sa chatte comme si, en fait, elle la dominait d'une certaine manière, c'est-à-dire comme si elle comprenait tout, on a l'impression presque qu'elle est vraiment maîtresse, en fait, de sa chatte, alors qu'en fait, on voit bien aussi qu'elle est dans une sorte de compréhension très fine. Colette fait les dialogues de bête, c'est assez surprenant, en fait, de voir qu'on pourrait tomber dans un ridicule où on a l'impression qu'elle plaquerait des relations humaines à des animaux. Et en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fin. Est-ce que finalement, cette manière de communiquer-là, est-ce qu'en fait, elle n'est pas donnée à tous ceux qui ont des animaux chez eux et qui vivent avec eux au bout d'un certain moment ?
Alors, c'est une communication évidemment beaucoup moins précise que ce que font les gens qui pratiquent véritablement la communication animale. Mais vous avez raison, dans cette proximité de vie où les animaux qui vivent avec nous doivent aussi décrypter nos comportements, nous voyons bien qu'il y a une forme de dialogue qui s'installe, de compréhension qui s'installe en dehors des voies du langage. Et donc, on voit bien qu'il y a une possibilité d'accéder.
Alors vous avez cité tout à l'heure Florence Burguet et j'aimerais bien qu'on en parle. Vous avez cité le nom de Konrad Lorenz, donc c'est un éthologue autrichien. et qui parle de son noix. Vous le citez dans votre livre, je permets de la lire. La face humaine n'est pas seule à porter, notamment autour des yeux, les stigmates du destin lorsque les états dépressifs ici décrits durent par trop longtemps. Il en est de même pour la face de l'oie cendrée. Dans les deux cas, les contours inférieurs des yeux subissent, en raison de l'abaissement du tonus du grand sympathique, cette modification caractéristique qui exprime une profonde affliction. Là, il parle clairement des cernes. C'est-à-dire que quand on est mauvaise mine, en fait, ça se retrouve chez les oies.
Oui, je trouve ce passage absolument bouleversant. Et je trouve très important qu'il souligne, puisque nous parlons de cette question depuis le début, c'est-à-dire quel motif avons-nous de,
quel symptôme,
de dire qu'un animal est dépressif en dehors de quand même d'une évidence qui s'impose en le voyant se laisser sombrer. Et Lorenz attire ici l'attention sur les stigmates sur le visage, sur la face, car effectivement, un individu déprimé n'a plus la même manière de se tenir, n'a plus le même regard, n'a plus le même la même manière de marcher, et son visage porte cette difficulté de vivre. Et le visage des animaux porte aussi, lorsque c'est le cas, leur difficulté de vivre. On voit leur regard qui change. Je pense que on ne porte pas assez attention à cet élément capital, hein, le regard comme le miroir de l'âme. Le regard dit tellement de choses sur l'état d'un individu, d'une personne, d'un animal.
Mothers are shot so that their infants can be stolen from them.
Les mères, aussi le trafic qui prend des proportions effrayantes, on tue les mères, des mères chimpanzés dans les arbres pour récupérer les petits qui sont vendus par des trafiquants, parfois pour servir d'animaux de compagnie et d'autres fois, la plupart du temps, pour aller soit vers en captivité, très souvent pour la recherche médicale. Les gens ne comprennent pas que ces petits ont besoin de leur mère, même pas seulement pour les nourrir, mais en plus ils ont besoin pour les rassurer et pour l'amour qu'elle leur donne, qui est excessivement important. Ils sont capables de communication non verbale, ils s'embrassent, ils se donnent la main, ils se rassurent par des gestes tout à fait comme les hommes. Chaque individu a une histoire particulière, chaque famille a son passé qu'on peut suivre et connaître. Il y a même des criminels parmi les chimpanzés et pendant quelques années nous avons eu Passion et Pomme qui, pour une raison qui n'est pas encore tout à fait expliquée, se sont mis à kidnapper, tuer et manger les enfants des autres femelles.
La voix de Jane Goodall, primatologue britannique, c'était dans Fréquence buissonnière sur France Culture en 1990. Voilà aussi une approche, tout comme Colette, qui détonne par rapport à l'approche assez réductive des animaux à des causes extérieures, à des stimuli, à l'animal-machine, où là, au contraire, une attention toute particulière est portée non pas seulement aux attitudes, aux visages, mais aussi en fait aux relations qui se nouent entre un animal et les autres animaux avec lesquels il vit.
Oui, on ne rendra jamais assez hommage à Jane Goodall qui, dans les années 60, part dans ce parc naturel en Afrique pour, en intruse discrète, observer les relations entre les chimpanzés et notamment les épisodes douloureux. Elle raconte notamment la séquence de vie d'un petit frère qui s'occupe de sa sœur dont la mère est morte et qu'il ne peut pas sauver parce que s'il lui donne un peu d'affection, il ne peut pas remplacer sa mère. Donc Jane Goodall a raison de dire qu'il ne s'agit pas simplement de la mère nourricière, mais de tout un ensemble de relations qui se nouent. Et ce qui permet de dire au passage que selon le psychiatre vétérinaire Patrick Pajat, qui est l'auteur d'un des premiers textes, ce qui se produit dans les premières semaines de la vie, là il parle lui des chiens, est indélébile, comme chez l'humain. Vous voyez, il y a quelque chose ce qui se passe dans les premières semaines, les premiers mois de la vie, avant justement que cette vie psychique ne soit bien consolidée, chez les enfants, avant qu'il y ait le langage, eh bien, c'est à ce moment-là que les choses sont les plus marquantes et que les événements traumatisants sont déterminants pour la suite de l'existence. Et dans les années 60, on peut opposer, comme je l'ai fait, Jane Goodall et Henri Harlow, qui, à la même époque, dans son laboratoire américain, pour tester l'attachement maternel, fait subir les pires épreuves à des singes. Il les prive donc de leur mère. Les petits sont séparés, isolés. Et à la place de la mère, il y a un mannequin toujours plus violent lorsque les petits s'approchent, c'est-à-dire un mannequin qui sort des pics en métal. Et Harry Harlow montre qu'il y a des tas de manières de détruire l'affectivité des animaux jusqu'à la mort. Donc on a à la même époque Jane Goodall qui invente une autre éthologie et puis la psychologie de laboratoire.
Ce qui est aussi frappant dans votre livre, Florence Burgas, c'est que vous donnez un certain nombre de noms qui ne sont pas forcément connus du grand public. Autant Freud est un nom qui est connu, et Jane Goodall un peu plus. Mais vous citez, donc on a parlé de Conrad Lorenz, vous parlez de Henriet, qui est un théoricien du concept de psychiatrie animale, neurologue et psychiatre français, qui est contemporain du XXe siècle. Vous citez aussi Frédéric Buitendijk, physiologiste et fondateur d'une psychoéthologie phénoménologique et qui est néerlandais. Ça, c'est des noms en fait qui sont pas très popularisés et qui peuvent contribuer justement à dépasser tous les clichés, toutes les moqueries ou même tout simplement les a priori sans moquerie qu'on peut avoir sur les animaux.
Et oui, on aimerait beaucoup que c'est que
ces auteurs, ce sont quand même
des textes théoriques. Oui, Henriet donc publie en 1964 un gros volume collectif psychiatrie animale dans la bibliothèque de neuropsychiatrie de langue française chez Desclée de Brouwer. Il conceptualise cette notion. Il dit qu'en effet, à partir du moment où on reconnaît une psyché aux animaux, on doit reconnaître des psychopathologies. Et il s'appuie aussi lui aussi beaucoup sur le rêve. Dans toute son œuvre, il dit que un individu qui rêve peut devenir fou parce qu'au fond, le rêve implique que l'activité psychique comporte une espèce de zone de folie. Pendant le rêve, la psyché en fait délire chez l'individu normal, et donc il y a ce double régime en fait dans la psyché chez tout individu qui peut rêver. Alors on peut rajouter aussi le nom du psychiatre psychanalyste freudien John Bowlby, auteur d'une magistrale étude comparée en trois volumes qu'on peut lire, qui a été traduite auprès d'une universitaire de France, où il mène une étude comparée des dommages engendrés par la perte des parents chez des orphelins britanniques, il est britannique, et chez des petits chimpanzés privés de leur mère. Et Bowlby en arrive à la conclusion que ni la psychopathologie, ni le conflit psychique sont des propres de l'homme, mais que ce sont des choses qu'on retrouve chez les animaux, en tout cas tous les mammifères. Donc en effet, il y a contre les moqueries, pour nous en prémunir, tous ces grands noms que nous pourrions peut-être jeter à la figure des gens qui se moquent, et nous sommes à peu près sûrs qu'ils n'en ont pas lu une ligne. Voilà.
Oui. Et justement, on a parlé, Florence Burgas, de la conscience, de l'inconscient, de pathologie, mais aussi d'état normal, en fait, de la vie psychique des animaux, dans le cas, en fait, de pathologies qui viennent perturber le cours normal de l'existence d'un chat ou d'un chien, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que là, vous citez dans votre livre aussi un ensemble de pathologies. Vous parlez, par exemple, d'états de stress post-traumatique, d'hyperattachement, de dépression, de phobie, de maladie de peau, d'automutilation, de piquage, je ne connaissais pas ce nom, c'est l'ingestion de substances non comestibles, mais aussi de peurs qui n'ont rien à voir avec des peurs adaptatives normales, mais des peurs pathologiques. Une fois qu'on repère ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il... Voilà, on a entendu le premier extrait qui est ouvré, c'est qu'il y a, donc il n'y a pas la parole, mais comment on fait pour remédier à ça? Quel type de thérapeutique on peut envisager?
Alors bien sûr, toute cette liste de mots, ce n'est pas moi qui ai pris la liberté naturellement de la formuler. C'est une discipline récente, non unifiée, très peu fondée sur le plan théorique, j'ose le dire, qui s'appelle la psychiatrie animale ou la zoopsychiatrie. Donc on évoquait Henriet qui en théorise le concept. Ce qui est frappant quand on lit cette littérature actuelle, c'est de voir qu'il n'y a pas de concept de psyché dans cette psychiatrie animale, beaucoup d'auteurs, mais pas tous, voilà, comme elle n'est pas unifiée, hein, je ne veux pas généraliser, se fondent certainement sur le manuel américain, le DSM, qui ramène les maladies mentales à des séries de symptômes qu'on fait disparaître avec des médicaments. Bon, d'après ce que j'ai lu, les psychiatres vétérinaires, les zoopsychiatres, utilisent ces molécules pour apaiser les symptômes. Ces molécules, alors on pourrait, là aussi, les gens pourraient rigoler, ah, tu donnes du Prozac à ton chien. Mais enfin, il faut pas oublier que c'est sur les animaux que toutes ces molécules sont mises au point. Voilà, c'est ce qu'on oublie peut-être aussi un peu rapidement. Donc, ces vétérinaires, psychiatres ou d'autres se disent plutôt comportementalistes, parce que là aussi, il n'y a pas de définition du comportement, mais on peut imaginer que c'est quand même pas un comportement au sens behavioriste, mais vous voyez, tout ça n'est pas clair, pour faciliter une thérapie. Il semble y avoir quand même dans la profession un accord sur le fait que la molécule chimique ne soigne pas. Elle fait diminuer le symptôme pour rendre possible une thérapie. Alors, quelle thérapie, me direz-vous ? Puisque ça n'est pas une cure par la parole. D'ailleurs, en humaine, il y a aussi des tas d'autres thérapies aujourd'hui, plus adaptatives, etc. Souvent, ces thérapies passent par le jeu, J-E-U, dont on sait que... Qu'est-ce que c'est que le jeu ? C'est un espace fictif dans lequel on peut jouer un autre rôle que celui qu'on n'arrive plus à jouer dans la vie actuelle. Donc, il y a beaucoup de thérapies qui passent par le jeu.
C'est ce que Mélanie Klein faisait d'ailleurs avec les enfants.
Avec les enfants. C'est vrai que là, nous avons des analogies possibles. Freud et d'autres ont beaucoup insisté sur le fait que il y a dans la thérapie la dimension de l'amour. Alors, en 1925, le vétérinaire Fernand Méry écrit la première thèse psychiatrie vétérinaire et psychologie animale qui, malgré ses maladresses et probablement sa naïveté au regard d'une nosographie plus précise aujourd'hui, insiste beaucoup sur cette dimension et rapporte le cas d'une chienne qui ne marchait plus, probablement n'était-elle pas paralysée pour des raisons entièrement anatomiques, physiologiques. Et que, à force d'amour, les soigneurs ont pu la faire remarcher. Mmh. Alors, quelle que soit la vérité de cette histoire, il y a quand même à l'arrière-plan l'idée que un individu qui s'effondre, c'est un individu qui a perdu tous ses points de repère affectifs, et que la restauration affective peut ramener un individu à la vie, en fait.
Merci beaucoup, Florence Burga. De vous, on peut donc lire L'inconscient des animaux, paru aux éditions du Seuil. Mais je signale aussi, toujours aux éditions du Seuil, L'humanité carnivore et Qu'est-ce qu'une plante ? Grand merci à vous.
Merci beaucoup. Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. A light and tumble journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a crosstown bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. It's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. Whoa, whoa, whoa. The monkeys stand for honesty. Giraffes are insincere. And the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages, and the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries, antelopes are missionaries. Pigeons plot in secrecy, and hamsters turn on frequently. What a gas you'll have to come and see at the zoo.
Et merci à l'équipe de Sans oser le demander, à Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Étienne Rouche. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.
Il était une fois une princesse qui devint amoureuse.
France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancred Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque.
Je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, c'était tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit, merde!
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un podcast d'Ovidie réalisé par Julie Béressy sur franceculture.fr et l'appli Radio France.